IDFM Radio, le média valdoisien. Bonjour et bienvenue sur IDFM Radio, toujours la plus belle des radios valdoisiennes en Île-de-France. À écouter en FM sur 98.00, web radio 98.fr, DAB+, et sur notre appli Android. Jacqueline Voraz avec Nicolas et Enzo à la technique. Bonjour Nicolas, bonjour Enzo. Dans un monde économique en constante évolution, où les parcours se réinventent, où les compétences se diversifient, nous recevons aujourd'hui trois invités au profil inspirant entre passion, expertise technique et transmission des savoirs. Bienvenue dans l'économie en direct. Aujourd'hui, 3 avril 2026, j'ai le plaisir d'accueillir Virginie Legrand, chef à domicile, fondatrice de Communique Passion. Bonjour Virginie.
Bonjour Jacqueline.
Fed El Aboubi, administrateur système et réseau. Bonjour Fed.
Bonjour Jacqueline.
Et Catherine Ezika, fondatrice de Limitless, speak fluent English. Bonjour Catherine.
Bonjour Jacqueline.
Bienvenue et merci d'être chez IDFM Radio à l'économie en direct.
IDFM Radio, par nous, pour nous.
Alors, avant de vous donner la parole, nous allons retrouver notre expert en géopolitique valdoisien, Gérard Vespierre, très demandé sur toutes les chaînes d'actualité, mais toujours fidèle à IDFM Radio entre deux interviews sur Europe 1 en ce moment, et qui nous livre régulièrement sa chronique « Décryptons le monde » dédiée aux affaires internationales. Bonjour Gérard.
Bonjour Jacqueline, merci pour cette délicate présentation très très radiophonique. Je tiens à saluer vos invités et aussi celles et ceux qui nous écoutent.
Oui, ben, je crois que vous avez de quoi faire en ce moment avec tout ce qui se passe dans le monde,
Gérard. Hélas.
Ouais. Alors Gérard, après votre dernière chronique intitulée « L'Iran de tous les dangers », juste avant le début du conflit, vous souhaitez ce matin nous parler de la très douloureuse situation en Iran qui s'étend à tout le Moyen-Orient et aussi au reste du monde. Et votre rubrique s'intitule ce matin « Après les bombardements, paix ou autre étape ». Pourquoi cette interrogation ?
Jacqueline, nous avons vu se mettre en place depuis le mois de janvier autour de l'Iran une très puissante armada aérienne et navale organisée autour de deux porte-avions et depuis les bases américaines dans 7 pays de la région. Environ 300 chasseurs-bombardiers et leurs avions de ravitaillement. S'y est joint une très grande partie des capacités aériennes d'Israël. 200 avions chasseurs-bombardiers israéliens ont participé à la première vague de frappe. Depuis, deux groupes de forces de débarquement des Marines, environ 4000 combattants, ont rejoint depuis le Pacifique la proximité des côtes iraniennes. Des parachutistes issus de l'unité, qui a sauté sur Sainte-Mère-l'Église sont également sur le théâtre des opérations. D'autres troupes américaines pourraient être envoyées, environ 10 000 hommes. Voilà le pourquoi de mon interrogation. À quoi ces forces complémentaires peuvent-elles servir ? Quelles sont les raisons d'un tel déploiement ?
Alors oui, je comprends parfaitement le sens de votre interrogation, mais quelle réponse au pluriel pouvez-vous apporter ? Je suppose que vous n'avez pas qu'une seule hypothèse ou explication à nous apporter.
Effectivement, il y a trois grandes options. La première, politique et diplomatique. La deuxième, pour mener des opérations ponctuelles accompagnant les bombardements actuels. Et la troisième, dans le cadre d'une deuxième phase des opérations. D'abord, il faut tenir compte des conséquences des bombardements sur environ 10 000 objectifs en Iran. Élimination de dizaines de responsables politiques et sécuritaires. Infrastructures militaires et nucléaires détruites. D'une part, ces déploiements de troupes amplifient le poids psychologique sur le régime et les inévitables dissensions internes, mais ils impliquent que les combats puissent durer. D'autre part, si le nombre des lancements de missiles et drones iraniens diminue, le régime n'entend pas déposer les armes. Il s'agit donc pour les États-Unis de montrer une pression militaire supplémentaire possible sans l'employer. Le deuxième volet d'explication fait intervenir de possibles opérations sur des sites pétroliers iraniens et en particulier la fameuse île de Karg. C'est vers elle que convergent les pipelines iraniens transportant le pétrole destiné à l'exportation par des tankers. Prendre cette île, c'est détenir les clés du coffre fort pétrolier iranien, c'est assécher l'économie iranienne. S'engageraient alors des négociations sur le thème « On vous rend les clés de votre coffre-fort si vous rouvrez le détroit d'Ormuz. Vous pourrez réexporter votre pétrole dès que les bateaux du monde entier pourront passer tranquillement dans le détroit d'Ormuz. » Donc, influence, diplomatie, donc pression vers la paix, ou bien vers la poursuite de la guerre par de nouvelles opérations militaires. Nous avons donc deux explications à cet accroissement des forces militaires américaines.
Ah oui, mais je crois avoir compris que vous nous en proposiez trois d'hypothèses. Donc, quelle est donc la troisième ?
Vous avez tout à fait raison. Cette troisième option consiste à considérer que la campagne de bombardement ne suffira pas à faire tomber le régime iranien. Cette campagne peut préparer la chute, mais elle n'est pas suffisante pour la réaliser. Donc on pourrait s'attendre à une deuxième phase dans cette campagne. Après l'arrêt des bombardements, une phase de soulèvement intérieur. Seul un soulèvement populaire organisé aura à la fois la force et la légitimité d'accomplir un tel objectif. Lors des soulèvements précédents, les manifestants mains nues ne pouvaient s'opposer aux fusils des forces de sécurité. Or, il y a actuellement des signes indiquant que des unités de résistance intérieure sont prêtes à contribuer à aider les manifestants et à affronter directement les forces de l'ordre. Il y a également des indications que des groupes issus de la minorité kurde en Iran sont également prêts à faire face à des affrontements urbains avec les gardiens de la révolution. Ces nouvelles troupes américaines et les avions et hélicoptères d'appui qui les accompagnent pourraient être très précieux dans le cadre d'interventions ponctuelles à l'intérieur de l'Iran afin d'aider les révoltes en frappant les forces du régime. Elles disposent des moyens aériens pour les déposer là où ils seraient nécessaires. À l'évidence, nous aurions alors une prolongation des incertitudes iraniennes et un blocage maintenu du détroit d'Ormuz. La crise des prix du pétrole et du gaz serait prolongée.
Et alors, quelle porte de sortie, selon vous, pourrait mettre fin au blocage du transport du pétrole et du gaz dans ce détroit d'Ormuz et un retour au prix antérieur ?
Je pense qu'il y a deux portes de sortie, diamétralement opposées. L'une consisterait à la mise en place d'un cessez-le-feu avec un pouvoir iranien affaibli, voire très affaibli, mais toujours en place. On pourrait alors être tenté de dire, mais alors, tout cela pour ça ? Certes, un régime très mal en point, démuni de ses capacités de chantage nucléaire et ayant perdu par les frappes la plus grande partie de son industrie militaire, mais il resterait cependant en place à faire face avec la plus grande partie de son peuple qui souhaite voir son renversement. Ou bien, si un soulèvement populaire renversait le pouvoir, les nouvelles autorités auraient à la fois la capacité pour rétablir le passage et l'autorité dans le détroit d'Ormuz. Mais il faudrait patienter un certain nombre de semaines supplémentaires. Le retour d'une accalmie sur les prix du pétrole ne semble pas envisageable à court terme. Je suis désolé de ne pas vous montrer l'optimisme dont j'en suis souvent porteur. C'est un combat titanesque qui se déroule pour libérer le peuple iranien d'un sanglant autoritarisme de 47 ans. Si cela hausse le prix de l'essence, cela donne au moins le juste prix de notre effort et notre contribution à ce très noble objectif.
Merci Gérard pour cette dernière note qui souligne la noblesse de, en effet, de l'objectif d'aider le peuple iranien. Et merci d'avoir nous avoir porté tous ces éclairages parce que on est un petit peu suspendu à vos lèvres en ce moment par rapport à l'issue de ce conflit. Voilà, votre chronique se termine, votre chronique Décryptons le monde. Je rappelle à nos auditeurs et mes invités qu'ils peuvent retrouver tous vos écrits et interventions médias sur votre site www.lemondedécrypté.com. L'abonnement y est gratuit. À bientôt Gérard pour de nouveaux décryptages.
Merci Jacqueline, à bientôt.
À bientôt. Allez, on écoute un peu de musique avec Mylène Farmer qui va nous accompagner avec C'est une belle journée. On en a besoin.
En Ile-de-France, vous écoutez IDFM Radio sur le 98 FM et en DAB+.
C'est l'économie en direct et ce matin, j'ai le plaisir d'accueillir Virginie Legrand, chef à domicile, Fed El Aboubi, administrateur système et réseau, et Catherine Ezikar, fondatrice de Limitless et Speak Fluently English. Voilà, j'y suis arrivée. C'est pas mon cas de parler fluently, hein, Catherine. Mais bon. Alors, je vous propose de vous présenter, de faire un tour de table et puis de vous présenter rapidement pour nous dire, votre parcours et puis ce qui vous tient à cœur, Virginie Legrand.
Merci Jacqueline pour cette tribune. Alors donc Virginie Legrand, moi j'ai fondé mon entreprise qui s'appelle Communique Passion il y a 12 ans. J'ai fêté mes 12 ans le 25 mars. Moi j'organise des expériences culinaires, gastronomiques chez les particuliers qui veulent recevoir pour des moments symboliques, qui ont envie d'avoir l'expérience du restaurant. Sans aller au restaurant, en restant les pieds sous la table.
C'est ça. Donc on reviendra sur cette activité qui vous tient à cœur.
Oui.
Fed, merci d'être avec nous. Fed, je l'ai pas précisé, mais vous précisez, vous faites partie de la Ligue des Talents.
C'est ça.
Et c'est à ce titre que vous êtes avec nous ce matin. Donc bienvenue chez IDFM Radio.
Merci beaucoup pour l'invitation et pour la présentation. Avant de me présenter, j'aurais juste une petite question à vous poser à vous et à tous ceux qui nous écoutent. Est-ce que vous connaissez donc le monde invisible dans l'informatique? Quand certains ouvrent une application ou un site web, ils s'attardent sur l'interface ou ce qu'ils voient devant eux sur l'écran. Mais derrière tout ça, il y a tout un monde invisible, des serveurs, des réseaux, de la sécurité ou même des systèmes qui doivent fonctionner 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Eh bien, ce monde-là, c'est justement celui qui me passionne, moi, Fedel Aboubi, 22 ans, et administrateur système et réseau. J'ai un parcours très orienté terrain qui m'a permis de travailler sur du déploiement, du support et de l'administration. Et aujourd'hui, je m'oriente davantage vers la cybersécurité et l'automatisation.
Très bien. Merci Fed. Et on viendra sur votre parcours et sur vos spécificités. Merci à vous.
Merci à vous.
Catherine Ezicard, donc bienvenue également chez IDFM Radio.
Merci beaucoup Jacqueline pour cette belle invitation. Donc, je commence à me présenter. Catherine, je suis la fondatrice de Speak Fluent English.
C'est mieux dit que moi. Il n'y a rien à dire.
C'est un centre de formation basé à Épinay-sur-Seine. Notre mission est simple et claire. Aider chacun à dépasser ses limites linguistiques en anglais dans un contexte professionnel et personnel. Aujourd'hui, parler anglais, ce n'est plus qu'une option, c'est une nécessité. Pourtant, beaucoup de personnes manquent de confiance ou n'ont pas de bonnes méthodes. C'est là que nous interviennent. Donc, on va parler plus en détail tout à l'heure.
Absolument.
Voilà. Si vous voulez améliorer votre niveau d'anglais en 6 mois, c'est bien avec moi.
Très bien. Merci, Catherine.
Merci.
Bien, merci à tous les trois. Bienvenue chez IDFM Radio et merci d'être les invités en direct de l'économie en direct.
En Ile-de-France, vous écoutez IDFM Radio sur le 98 FM et en DAB+.
Alors Virginie, on commence avec vous qui avez su transformer, je crois, une passion en métier en dehors des chemins traditionnels, c'est bien ça?
Exactement.
Vous avez... Pourquoi la cuisine?
Alors la cuisine est une passion et ça a été longtemps un loisir. Pendant une dizaine d'années, c'était un loisir. J'adorais recevoir chez moi et chouchouter ma famille et mes amis dans un cadre... De confort,
oui,
finalement.
De partage.
De partage. Et quelques années après, en 2013, bon, en fait, j'ai un parcours d'enseignante. Moi, je suis prof de lettres.
D'accord.
À l'origine.
Oui.
J'ai été prof de lettres pendant 12 ans. Donc pendant 12 ans, j'adorais enseigner et j'adorais cuisiner. Et à un moment, j'ai décidé de laisser une chose pour en prendre une autre à temps plein. Donc en 2013, j'ai créé mon entreprise autour du chef à domicile. Je voulais tout de suite faire chez les gens. Je ne voulais pas passer par la case restaurant et je ne suis même pas passée par la case formation parce que je suis pleinement autodidacte.
D'accord.
Donc j'ai essayé de professionnaliser ma passion et 12 ans après, on peut dire que ça marche.
Mais alors, donc quand vous décidez comme ça de passer des lettres à la cuisine, en tout cas pleinement à la cuisine, vous avez fait une étude de marché. Qu'est-ce qui vous a vraiment incité à...
Je peux répondre honnêtement.
Ah oui.
L'instinct.
L'instinct,
voilà,
uniquement.
L'instinct, l'intuition.
Parce que vous, chaque fois que vous receviez, vos invités étaient heureux, contents.
Oui, mais là encore, c'était assez subjectif parce que les gens qui venaient, c'est des gens qui m'aimaient, donc forcément, ils aimaient. C'est bon, c'est beau. Je crois que j'ai eu envie de me challenger. Je crois que j'avais très très envie d'être libre et d'être indépendante dans l'entrepreneuriat. Pourtant, autour de moi, personne entrepreneur et personne dans la restauration. Mais je sentais que c'était un appel, quelque chose qui était plus fort que moi, une vraie passion dévorante que j'ai voulu transformer en métier. Et j'étais impatiente, en fait. Donc, le chef à domicile commençait. Oui. Il y avait une agence qui s'appelait La Belle Assiette à cette époque-là qui a fermé. Et j'ai été tapée à leur porte en disant j'ai envie d'en faire mon métier. Bah, ok, on va faire un dîner test. Et le dîner test a été très concluant. Donc, je suis rentrée dans cette agence pendant 2 ans et demi.
Ah oui. J'ai fait mes armes. Ça vous a mis le pied à l'étrier.
Exactement. Et j'ai compris surtout que c'était vraiment ce que je voulais faire et ce en quoi j'étais bonne. Donc j'ai continué. Puis après, j'ai réseauté. J'ai écrit 2 bouquins. J'ai lancé un podcast. Et puis, la trajectoire s'est accélérée. Et aujourd'hui, je me déplace même à l'étranger. Donc,
c'est chouette. Oui, une vraie chef, quoi.
Ouais.
Alors, moi, c'est une question que je me suis posée parce que j'adore cuisiner aussi et cette idée de chef à domicile m'a traversée. Mais je me disais, est-ce que c'est pas contraignant quand même parfois d'aller chez... Il y a le côté préparation de cuisine, mais il y a les lieux, enfin les outils, tout ça. Est-ce que ça, c'est pas parfois compliqué?
Je crois que c'est ça que j'adore, en fait. Je crois que c'est le côté... Oui, j'ai un petit côté fou aussi que j'assume. Je pense que le côté nomade, c'est ce qui me plaît beaucoup. Et on m'a proposé plusieurs fois de monter un resto, de m'associer dans un restaurant. D'être enfermé dans un restaurant, pour moi, ce serait pas possible. Pour répondre à votre question sur les contraintes, oui, il y a déjà la contrainte accessoire, enfin, qui ne l'est pas, c'est de l'ironie, mais où j'arrive avec toute la nourriture. Donc, j'ai 4, 5, 6, 7 caisses réfrigérées. Donc ça, faut le porter, c'est lourd. Faut tout sortir, faut tout réorganiser, faut trouver de la place aussi dans la cuisine du client. Et puis après, c'est de prendre possession de la cuisine. Et en fait, je fais partie de la famille. C'est-à-dire, c'est aussi quelque chose d'immensément chaleureux et très émotionnel. Là, j'ai cuisiné samedi midi. On était pour un mariage. C'était un petit mariage, 19 personnes. Tous les gens sont venus avec nous en cuisine. On a eu une coupe de champagne. Ils nous ont remerciés. Et de participer à des événements de manière si forte, pour moi, c'est ça qui me nourrit.
Oui, c'est un bonheur.
C'est ça qui me nourrit. C'est ça qui me fait oublier le côté négatif, parce qu'il y en a, évidemment.
Logistique, et puis, oui.
Bien sûr, logistique, parce qu'il ne faut rien oublier, en fait.
Et donc, quand vous êtes approché par un client, donc vos clients pour préparer un repas, vous rencontrez avant, vous allez visiter la cuisine.
Oh là, absolument pas le temps de ça. Non, je n'ai pas le temps. Moi, j'ai un client qui me contacte.
Vous jetez à l'eau comme ça.
Oui. Mais là encore, je pense que c'est ça qui m'excite. Là, typiquement, il y a 2 jours, on m'a contacté pour le lundi de Pâques. 11 personnes à table, réception de famille. Je suis en train d'établir le menu avec elle. Même pas les photos de la cuisine, parce que de toute façon, c'est pas ça qui va me faire dire non. Donc même si la cuisine est petite ou pas, qu'elle ne me convient pas, que c'est de la plaque à induction alors que j'aime mieux le gaz, j'en fais cas et je m'adapte. Mais c'est ça qui est intéressant, c'est qu'après, par contre, j'ai un vrai échange avec le client. Moi, j'ai une assistante aujourd'hui qui l'appelle et qui fait un vrai diagnostic culinaire avec lui.
Elle fait une petite audit.
Un audit de sa sensibilité, viande, poisson, dessert, fruits, chocolat, est-ce qu'il y a des allergies ou pas. Et après, je récupère la feuille et là, je crée. Pour eux. Ou en tout cas pour la personne à qui est dédié l'événement, parce que parfois c'est les 50 ans, les 30 ans, les 18 ans. Et c'est ça qui m'intéresse, en fait. C'est de créer pour les gens. Et après, ça se passe bien. Là, j'ai vu que, enfin, j'avais grosso modo 1600 prestations à mon actif. Donc, alors après, il y a aussi dans les bureaux, il y a à l'étranger, etc. Mais de manière générale, je pense que je peux dire que c'est ce qui me fait vibrer.
Et combien de temps vous faut-il pour donc le 11 pour le lundi de Pâques 11 personnes, vous allez arriver à quelle heure chez...
Alors, il y a certaines choses que je prépare en amont. En général, j'arrive 3 à 4 heures avant parce que j'aime aussi faire devant les gens.
Prendre votre
temps. Moi je suis pas traiteur au sens où j'arrive avec des choses préétablies avec une carte standardisée. J'aime vraiment faire ma chantilly devant eux, monter mes entrées devant eux, le dessert, le monter devant eux, pocher ma chantilly devant eux. Et ils adorent parce qu'il y a un côté un peu chaud que j'aime bien, mise en scène. Et eux, ils se sentent aussi privilégiés d'être en contact avec un chef qui essaye de communiquer sa passion.
Donc, en somme, vous n'avez jamais douté un seul instant?
Je peux répondre?
Jamais. Ben oui, vous êtes là pour répondre.
Jamais.
Jamais. Mmh.
Après, je peux avoir peur, je peux avoir voilà, des moments qui sont plus inconfortables que d'autres, parce qu'on est dans l'insécurité financière. Mmh. Ne parlons pas en ce moment de l'insécurité économique. Mmh. Mais je pense que ce qui est important, c'est ce qui nous rend alignés. Et moi, la passion, c'est quelque chose de très artistique, c'est quelque chose de très intérieur. Et à partir de là, je suis heureuse.
Alors donc vous me tendez une perche justement dans cette période troublée. Mm-hmm. Ça fait plusieurs années hein, que la période est troublée mm-hmm. entre les gilets jaunes,
le Covid,
la guerre en Ukraine, mm-hmm. enfin bon maintenant la guerre en Iran. Mm-hmm. Comment ça se gère? Est-ce que vous sentez une baisse d'activité?
Alors, pas une baisse d'activité, mais par contre, moi, je suis impactée fortement déjà sur la hausse et à la fois de l'essence, parce que je me déplace beaucoup, mmh. donc la pompe me fait mal, et la hausse des denrées. Le beurre a doublé, j'ai pris 35% dans la figure. Donc, j'essaye de répercuter sur les prix, mais là encore, tout le monde a des soucis de budget. Donc, me disent, bah non, là, c'est trop cher, donc on s'adapte. Moi, je veux garder, en fait, l'espoir, la foi. J'ai eu le Covid qui m'est arrivé en pleine tête. Mmh. J'étais à 6 ans quand le Covid est arrivé. Mmh. Ça a été très dur. J'ai fait une dépression de 3 semaines, je le dis.
Ah, oui.
Ça a été très, très dur parce que j'étais en pleine ascension, et quand on vous enlève quelque chose que vous avez construit pendant 6 ans, ça a été très dur.
Et là, vous pouvez pas faire de télétravail.
Voilà, ben non, là, j'étais. Mais à ce moment-là, il y a eu deux France. Hein. Il y a eu la France du télétravail heureuse, et puis il y a eu la France des artisans et des restaurateurs qui ont beaucoup morflé. Mm-hmm. Mais c'est à partir de là que j'ai voulu être résiliente, et je me suis dit, je vais le transformer. Donc, j'ai beaucoup communiqué. C'est à partir de là où j'ai émergé sur LinkedIn. C'est là où j'ai fait mon premier bouquin. J'ai fait une campagne Ulule. C'est là où je me suis dit, il y aura un avant, un après, et là, je vais être dans la pleine puissance. Mm-hmm. Et j'ai énormément travaillé, et aujourd'hui, ça se passe bien. Oui, c'est plus fragile, c'est vrai, mais je lâche rien.
Vous lâchez surtout. Rien. Bon, voilà, votre opiniâtreté paye.
Exactement.
Merci Virginie. On marque une pause avec Alain Souchon et Foule Sentimentale, et on se retrouve juste après.
Oh là là, la vie en rose, le rose qu'on nous propose, d'avoir les quantités de choses qui donne envie d'autre chose. Allez, on nous fait croire que le bonheur c'est d'avoir, de l'avoir plein nos armoires. Dérision de nous, dérisoire, car foule sentimentale, on a soif d'idéal. Attiré par les étoiles, les voiles, que des choses pas commerciales. Foule sentimentale, il faut voir comme on nous parle, comme on nous parle. Il se dégage de ces cartons d'emballage des gens lavés hors d'usage, et tristes et sans aucun avantage. On nous inflige des désirs qui nous affligent. On nous prend, faut pas déconner, déconner, né, pour des cons alors qu'on est. Des foules sentimentales, soif d'idéal, attiré par les étoiles, les voiles, que des choses pas commerciales. Foule sentimentale, il faut voir comme on nous parle, comme on nous parle. On nous Claudia Schiffer, on nous Paul nous solidaire. Oh, le mal qu'on peut nous faire et qui ravage à la mouquère. Du ciel dévale un désir qui nous emballe, pour demain nos enfants pas.
carnaval, foule sentimentale. On a soif d'idéal, attiré par les étoiles, les voiles, que des choses pas commerciales. Foule sentimentale, il faut voir comment on parle, comment on parle.
Écoutez IDFM Radio où que vous soyez via l'appli IDFM Radio et sur idfm98.fr.
C'est l'économie en direct sur IDFM Radio et ce matin, autour de notre plateau, j'accueille Virginie Legrand, chef à domicile, fondatrice de Communique Passion, Fed El Aboubi, administrateur système et réseau, et Catherine Ezikar, fondatrice de Limitless, Speak Fluently English. Yes. Alors Virginie, on a bien compris que vous étiez une battante, rien ne vous résiste, si j'ai bien compris.
C'est gentil.
Le fait d'être autodidacte, est-ce que c'est une force ou un défi dans votre métier ?
Alors, je pense que c'est une force parce que comme on n'a pas les codes académiques, on travaille deux fois plus, on se forme deux fois plus vite et on a envie de briser ce plafond de verre qu'on m'a tendu très très vite. Je suis dans un métier qui est très formaté et de sortir du sérail, ça a été compliqué de m'imposer. Mais je l'ai fait à la force de mon poignet et de mes mains et à la force du cœur aussi parce que je mets énormément de cœur dans mon travail. Et aujourd'hui, je suis reconnue par les plus grands, par des meilleurs ouvriers de France. J'ai même un ami qui est Bocuse d'Or qui me suit. J'ai des mentors qui sont dans ce milieu-là et qui m'admirent d'une certaine manière pour une seule chose, parce que je travaille énormément. Et je crois que c'est un métier où c'est comme ça qu'on se différencie. On parle beaucoup de réseau, il y a beaucoup de digital, c'est bien. Mais moi, ce qui fait ma force, en tout cas, la force d'un chef, c'est d'aller cuisiner, en fait, bien tout sûr, simplement. Donc non, je suis fière d'être autodidacte, j'en parle beaucoup. J'ai longtemps souffert du syndrome de l'imposteur. J'ai beaucoup travaillé avec des coachs, avec des psychothérapeutes pour me sortir de ça. Et aujourd'hui, m'épanouir et m'émanciper de tout ça.
Ah bah c'est bien, donc on peut en guérir alors du syndrome de l'imposteur.
Évidemment.
C'est une bonne nouvelle.
Évidemment.
Et votre positionnement aujourd'hui, c'est plutôt, vous allez plutôt dans la gastronomie, la cuisine familiale, les événements ?
C'est tellement variable. C'est vrai que je fais des événements qui sont gastronomie un peu premium, mais j'aime aussi quand on me demande de faire une blanquette de veau pour les 60 ans de mamie. C'est ça aussi, c'est très varié. Moi, je travaille beaucoup la saison, j'aime beaucoup les couleurs. Donc, je fais des assiettes qui sont esthétiques, mais après, ça peut être des plats mijotés comme des plats plus raffinés. C'est ça aussi que j'aime, c'est ce côté créativité illimitée et variété. Et la question, heureusement, vous me l'avez pas posée, Jacqueline, mais c'est quand on me dit quel est ton plat signature. Ça m'énerve parce que je ne veux pas être enfermée dans un seul plat. C'est tout est question d'humeur, tout est question de rencontre. Et en fait, j'aime vraiment faire le menu en fonction de la personne que j'ai en face de moi. Donc voilà, en m'adaptant, viande, poisson, végétarien ou pas. Mais après, c'est vrai que j'aime bien faire des événements qui sont assez quali. J'ai des maîtres d'hôtel qui bossent avec moi. J'ai une équipe maintenant et j'aime vraiment le côté hospitalité, réception raffinée, quasi haut de gamme pour m'exprimer pleinement.
Oui, le pouvoir offrir à vos clients un moment d'exception.
Exactement.
Oui, oui.
C'est exactement ça.
Alors pour au niveau de la table, est-ce que c'est vous qui l'adressez, c'est vous qui choisissez les assiettes, vous apportez vos assiettes, comment ça?
Alors
c'est aussi faire une belle table, c'est important.
Alors parfois typiquement la samedi, la future mariée voulait mettre les assiettes familiales héritées de la grand-mère de la grand-mère de la grand-mère, la jolie porcelaine. Donc ça, dans ces cas-là, je prends et je dresse dans leurs assiettes. Moi en tout cas, je n'apporte jamais rien. Donc soit je prends ce qu'il y a sur place, soit je loue. Et je fais livrer. D'accord. Et après, la table est dressée par mon maître d'hôtel, mon ou ma, qui sait, qui a tous les codes. C'est aussi un métier, hein, le maître d'hôtel, que je n'ai pas.
Bien sûr.
Donc je préfère m'en remettre et m'entourer à chaque fois d'experts et de talents qui s'engagent dans l'expérience avec moi.
Des maîtres d'hôtel que vous allez chercher, par exemple, chez Ferrandi, ou pas forcément?
Alors maintenant, c'est des maîtres d'hôtel, alors Ferrandi, ou après on a d'autres écoles, ou c'est aussi, j'ai aussi des gens qui ont leur propre structure depuis longtemps.
Oui, oui.
Et c'est des gens qui ont travaillé, qui sont aguerris et qui connaissent ma philosophie, qui connaissent mon histoire, et c'est des gens avec lesquels je travaille. J'en ai trois qui tournent, qui sont avec moi depuis 4-5 ans.
Ah oui.
J'ai une équipe de prestataires, de freelance qui sont là avec moi et qui connaissent mon exigence, parce que je suis souriante comme ça, mais je suis très perfectionniste.
Est-ce qu'on peut avoir une idée de ce que coûte un repas
sûr.
Comme ça
Bien sûr. Alors pour le format cocktail, c'est-à-dire debout, on est entre 60 et 65 euros par personne, avec des pièces qui font qu'à la fin, vous êtes bien rassasié. Donc un mélange de nature, viande, poisson. Après, à table, on est sur entre 100 et 115 euros par personne, avec le maître d'hôtel qui est là. On peut rajouter des accords mets vins, on peut rajouter le fromage. Et en fait, pour être honnête, j'ai quand même beaucoup d'argent qui part dans la nourriture, ce qui veut dire que le 115 n'est pas que pour moi.
Voilà, les 115 euros, c'est tout compris.
Ah, bien sûr.
Pour une nourriture comprise.
Bien sûr. Donc ça peut, j'entends que c'est un budget, mais finalement, la personne se charge de rien du tout. Et je suis sur place pendant 5 heures.
Bien sûr.
C'est une expérience de restaurant, mais à la maison.
Merci Virginie.
Merci Jacqueline.
Catherine et Fed, Fed peut-être pas, mais Catherine, est-ce que vous avez déjà fait appel à ce genre de prestations pour vous personnellement?
Pas encore, mais ça m'intéresse tellement son projet. J'ai déjà récupéré sa carte visite tout à l'heure. Donc sûrement, je vais faire appel très vite.
Voilà, et faites quand vous aurez trouvé un CDI, peut-être que vous organiserez.
Oui, probablement, oui. Je n'hésiterai pas aussi à prendre votre carte de visite. Oui, potentiellement, je pourrais faire appel à ces services plus tard.
Très bien. Alors, Virginie, comment trouvez-vous vos clients et puis comment vous les fidélisez? Parce que, est-ce que les gens font appel plusieurs fois à vous ou c'est juste un one shot?
Alors j'ai un client et là je voudrais lui rendre hommage, Fabrice, qui m'a appelé en 2014 et entre 2014 et 2026 je suis allée chez lui 13 fois.
Ah oui.
Pour tous les événements, de famille. J'ai un taux de fidélisation qui est à 90%. Grosso modo, je reprends entre 2 et 3 clients pour des prestations différentes. Je surdélivre. J'ai un rapport à l'expérience client qui est hyper exigeant, quasi obsessionnel. Donc je les chouchoute et après, si ça leur plaît, ils reviennent. Mais ça leur plaît très souvent. Et pour la question concernant la prospection, j'ai de la vraie recommandation et un bouche à oreille très solide.
Plus important.
Et les réseaux. Voilà, moi je suis très très présente sur LinkedIn, j'ai 31 000 personnes sur LinkedIn, donc j'ai une vraie communauté sur Instagram aussi, et en fait je communique, j'ai la chance d'avoir des jolis contenus, des belles photos, parce que j'ai fait beaucoup de shooting, donc ça donne envie, je fais beaucoup d'actualités, je me déplace aussi dans des réseaux de networking pour montrer que je suis là, ou dans des médias pour montrer que je suis là, et j'organise aussi moi-même des soirées networking pour pour en fait montrer ma cuisine, parce que je n'ai pas de restaurant. Donc je dois aussi faire des soirées où je m'exprime pour montrer aux gens et donner envie aux gens de faire appel à moi chez eux.
On va en parler d'une juste avant de terminer l'interview. Est-ce que vous avez quand même, à un moment donné, bon, vous parliez du Covid qui a été un coup de grâce un petit peu pour vous. Est-ce qu'il y a d'autres difficultés que vous rencontrez aujourd'hui dans votre activité?
Oui, la fatigue, fatigue, le stress, la charge mentale. Moi, je travaille avec mon mari, donc communique passion fait vivre deux personnes. Ah plus, oui. On a une
donc
fille de
17
ans.
Vous n'avez pas intérêt à vous.
Voilà.
À
donc
vous louper.
J'ai pas de soupape à côté de quelqu'un qui travaille, un compagnon ou une compagne qui travaille. Donc c'est pour ça que il faut envoyer du lourd. Donc ça peut parfois être assez contraignant dans la tête, mais en fait, je suis tellement animée de ce que je fais que ça a tellement de sens. Et je vois que ça progresse sur plein de plans. Donc, non, ça, de ce côté-là, j'essaye de le gérer. Après, la difficulté, quand on réussit, plein de gens veulent réussir. C'est une vraie question. Moi, je pense que j'ai gravi cette pente-là parce que 12 ans, c'est pas mal. Après, il faut se heurter aux gens. Et ma difficulté aujourd'hui, c'est les gens.
C'est peut-être ça, oui.
C'est les gens, j'en parle maintenant assez ouvertement, mais c'est les opportunistes, c'est les jaloux, c'est les gens qui essayent de vous déstabiliser.
Ouais. Ah oui, mais dans quel sens, par exemple?
Bah parce que ils aiment pas que je réussisse.
Ah oui mais bon ça.
Voilà.
Ah
non mais voilà, je veux dire c'est ce que la réussite aussi
oui,
apporte.
Ah bah forcément.
Donc ça peut
forcément
être parfois des contrariétés. Moi je suis quelqu'un d'hypersensible, j'adore les gens, j'adore faire des collaborations, j'adore soutenir. Donc je pars du principe naïvement que l'homme est bon. Et non, je découvre que l'homme n'est pas toujours bon, l'homme avec un grand H. Et voilà, mais après...
C'est ce qu'on appelle l'expérience.
C'est l'expérience. Et je trouve que ça forge aussi beaucoup.
Absolument.
Mais non, maintenant, je sais où je vais, je sais ce que je vaux, et je sais avec qui je veux travailler. Donc, c'est de plus en plus fluide. Mes limites.
Oui, très bien. Alors, parlez-nous de votre projet de développement et de votre actualité à partager là dans quelques jours.
Alors, là, effectivement, j'organise une très, très belle soirée le 16 avril. J'ai toujours organisé des soirées networking pour du petit 20-25 personnes. C'est toujours moi qui cuisinais. Là, j'ai voulu taper fort. Moi, j'ai mon podcast depuis 3 ans et demi et j'ai voulu réunir à la fois des entrepreneurs et les invités de mon podcast. Donc, ce sera le 16 avril à L'Envol, qui est le restaurant de la Philharmonie de Paris, dans le 19e. On va recevoir environ 100 personnes. C'est un menu que je vais co-créer avec des artisans et des chefs que j'ai reçus dans mon podcast. Donc, il va y avoir des identités et des sensibilités culinaires. J'ai Nicolas Salle, l'ancien chef du Ritz, qui sera à mes côtés. J'ai Chef Damien, de 750 grammes la table, qui sera à mes côtés. Je vais avoir des corners, j'ai des photographes. Et ça va être une soirée de fusion, d'émulation et de communion, parce qu'on en a besoin et autour de la créativité surtout. Donc n'hésitez pas, on est déjà à 80, je ferme à 100, donc n'hésitez pas pour vous inscrire.
Le montant de cette soirée?
85 euros.
D'accord. Alors juste je rebondis aussi par rapport à ces podcasts. Donc ces podcasts, ce sont essentiellement des chefs, enfin des personnalités que vous recevez.
Quand j'ai lancé mon podcast il y a 3 ans et demi, j'ai voulu trouver un prétexte pour aller à la rencontre de ceux qui sont comme moi. Des passionnés, des artisans, des gens qui transforment. Mais j'ai pas voulu faire un podcast spécial chef. Il y en a suffisamment. Donc là, c'est vrai que j'ai tapé à la porte de viticulteurs, de pâtissiers, de gens qui fument le saumon, de bouchers, de gens qui font de l'événementiel, des mixologues, des photographes. Enfin, c'est hyper varié. La semaine prochaine, je tourne mon 93e épisode. À chaque fois, c'est une tablée de 4 et j'ai reçu plus de 300 personnes. Et ça m'a ouvert à la fois des portes, parce que du coup maintenant je suis jurée dans des concours. Et puis humainement parlant, j'ai rencontré des pairs qui sont admirables et en fait on se soutient parce que c'est une très belle communauté la gastronomie. Quand il y a du cœur, quand il y a du vrai, ça nous fait vraiment nous envoler très loin.
Virginie, on a envie de vous suivre, hein, vraiment. Bon, d'ailleurs, je crois que ça fait plus de 2 ans qu'on essaie de,
oui,
que j'essaie de vous faire
là.
Venir. Et à chaque
ravie.
Fois, vous étiez occupée, donc oui. Moi aussi, je suis ravie que vous
Merci,
ayez pu venir et je suis ravie de vous connaître enfin.
Merci.
Bravo, en tout cas, pour tous ces témoignages et puis qui montrent que la passion peut devenir une véritable aventure entrepreneuriale.
Exactement.
Et bonne route pour les années à venir.
Merci infiniment.
Merci infiniment. Voilà, on refait une pause et cette fois on va écouter Adele et Rolling in the Deep.
There's a fire starting in my heart, reaching a fever pitch and it's bringing me out the dark. Finally I can see you crystal clear. Go ahead and sell me out and I'll lay your ship bare. See how I'll leave with every piece of you. Is bringing me out the dark. The scars of your love remind me of us. They keep me thinking that we almost had it all. The scars of your love, they leave me breathless. I can't help feeling we could have had it all. Rolling in the deep. You have
IDFM Radio sur le 98 FM.
IDFM Radio 98 FM.
C'est l'économie en direct sur IDFM Radio. Ce matin, j'accueille Virginie Legrand, chef à domicile, fondatrice de Communique Passion, Fed El Aboubi, administrateur système et réseau, et Catherine Ezikar, fondatrice de Limitless, Speak Fluently English. Alors, Fed, j'ai eu le plaisir de vous voir. Donc, c'était le 20 mars. C'était le déjeuner organisé par la Ligue des jeunes talents. Exactement. Et vous avez pitché parce que vous faites partie donc de cette association, hein, la Ligue des jeunes talents, fondée par Frédéric Coste. Et vous êtes à la recherche d'un emploi. Mais avant de faire focus sur cette recherche d'emploi, déjà. Présentez-nous votre mission, Fed.
Bien sûr. Alors, ma mission dans mon domaine, c'est de faire en sorte que les systèmes informatiques fonctionnent correctement. Mmh. C'est-à-dire que j'assure la disponibilité des serveurs, En cas de donc de panne ou de problème technique, il faudra donc faire en sorte de s'adapter pour toujours permettre au service et au serveur d'être opérationnel.
De fonctionner, oui.
Exactement. J'assure aussi la stabilité réseau. Donc notamment la connexion à distance en cas de télétravail, etc. Et la sécurité des données pour éviter des fuites de données importantes, notamment quand j'interviens chez des clients sensibles.
Très bien. Et alors pourquoi ce goût pour l'informatique ? Ça a toujours été ou c'est venu comment ?
Alors c'est depuis que je suis très jeune, étant donné que je suis né en 2003, je suis un digital natif, donc je suis né avec l'informatique dans le sang, donc j'ai grandi avec, c'est avec ça que j'ai appris à lire, à écrire, à calculer, etc.
Un bébé digital.
Exactement. Et au début, j'étais très passionné par les mathématiques, donc j'adorais les chiffres, j'adorais les formules. Donc j'ai fait beaucoup de mathématiques et de physique-chimie, notamment tout au long de mon lycée et de mon collège. Et c'est au-delà de mon bac, quand j'ai rejoint donc une licence mathématique, que je me suis rendu compte que c'était vraiment l'expérience terrain que j'aimais, et non pas juste le par cœur et la théorie. Et c'est là que je me suis rendu compte que l'informatique n'était pas juste un hobby que j'aimais faire à la maison, mais vraiment une passion que j'avais envie d'en faire mon métier. Mmh. Et donc c'est à partir de là que je me suis instruit, que je me suis donc réorienté dans l'informatique et que j'ai commencé à me former, que ça soit dans la partie développement au début. Je développais des mini-applications, des logiciels, et qu'aujourd'hui j'ai décidé donc de m'orienter système et réseau et plus accès aujourd'hui vers la cybersécurité et l'automatisation.
Très bien. Alors, à propos, oui, vous travaillez avec Linux.
Exactement.
La virtualisation, l'automatisation, vous pouvez nous expliquer, parce que peut-être que là, nous, on est un peu... Enfin, moi, je suis un peu larguée. Hein.
Bien sûr. Concernant Linux, donc, c'est un système d'exploitation open source. Donc, aujourd'hui, tout le monde peut installer un Linux chez soi. Bien évidemment, il existe de nombreuses distributions. Certains sont gratuits, d'autres sont payants. Linux est vraiment donc un système d'exploitation, je dirais, important dans le monde de l'informatique. On a notamment, par exemple, macOS, donc le système d'exploitation Apple, qui est vraiment inspiré fortement de Linux. On y retrouve plein de commandes qui ressemblent, l'interface ressemble fortement à Linux, là où Windows se détache un peu plus. Et donc vraiment, aujourd'hui, travailler dans le monde d'informatique, il est très très important de maîtriser certaines distributions Linux. Je pense notamment à Ubuntu et Debian, qui sont des distributions gratuites, où là, le support, lui, est payant, mais la distribution, elle, est gratuite et on peut l'installer sur pratiquement n'importe quelle machine. Concernant la...
Travailler sur Linux comme vous le faites, c'est un plus, c'est une valeur ajoutée dans votre CV?
C'est un plus, effectivement, mais pour moi, de mon point de vue, c'est une nécessité, je dirais, parce que la grande majorité des serveurs sont en Linux, soit Windows Server. Et vraiment, maîtriser Linux, pour moi, est une nécessité importante pour s'en sortir dans le monde de l'informatique.
D'accord, très bien. Alors, vous nous avez parlé de cybersécurité. C'est un sujet central, hein, puisqu'aujourd'hui, le message que moi j'entends le plus fréquemment, c'est ce n'est pas comment nous allons être piratés, mais quand, parce que voilà, on va être piratés un jour ou l'autre. Est-ce que vous pensez que les entreprises, les TPE-PME, peuvent mieux se protéger?
Oui, bien sûr. Comme vous l'avez dit, on se pose plus la question de est-ce qu'on va être attaqué, mais plutôt quand. Aujourd'hui, la cybersécurité est devenue essentielle pour toutes les structures. Donc, le risque concerne bien aussi les grandes entreprises comme les PME. Parce que souvent, les attaques passent par des erreurs humaines, des mails frauduleux, des mots de passe faibles. Et même si je ne suis pas encore tout à fait expert dans ce domaine, je monte activement en compétences et souvent, enfin les plus souvent attaqués sont les PME justement, car elles ne disposent pas toujours des ressources nécessaires pour sécuriser correctement leur infrastructure, alors qu'ils sont tout autant ciblés
que les autres
ouais. entreprises. Et effectivement. Ils peuvent rebondir et s'adapter plus difficilement que les grandes entreprises qui, eux, ont un plus grand budget et peuvent donc faire appel à des technologies moins accessibles par les PME. Mais aujourd'hui, il existe vraiment différentes manières de s'adapter, notamment la sensibilisation qui n'a pas un coût très
oui,
important.
Oui. La prévention.
Exactement.
En fait.
Ou donc pour chaque nouvel employé ou même employé déjà installé dans la société, il suffit donc de mettre à jour régulièrement les mots de passe. Mmh. Moi, j'ai tendance à dire 90 jours maximum pour un
D'accord.
mot de passe. Vraiment.
Tous les trois mois,
ouais. mettre à jour son mot de passe avec plus ou moins des difficultés hautes et surtout pas les réutiliser. Pour des comptes notamment personnels,
oui.
c'est ça parce que avoir un compte fort c'est bien, mais avoir un compte fort pour plusieurs comptes c'est très problématique parce qu'il suffit d'en se faire pirater un seul pour perdre la totalité des comptes qu'on a à disposition. Donc oui, la sensibilisation est très importante et accessible à tous. Et après, il y a d'autres technologies plus ou moins accessibles, bien sûr.
Bien sûr. Alors aujourd'hui, vous êtes en recherche d'emploi, un CDI de préférence. Comment vivez-vous cette période?
Pas très facile, je vais vous avouer.
Ouais.
Surtout que j'ai perdu récemment mon entreprise d'accueil dans le cadre d'une alternance, décembre dernier. Ça a été, ça n'a pas été la meilleure période pour perdre mon entreprise, étant donné qu'il y avait peu, voire pas du tout, d'offres disponibles sur le marché pour être accueilli par une nouvelle entreprise. Malheureusement, la deadline pour retrouver une entreprise avant de quitter mon CFA est bientôt atteinte.
Donc là, vous avez
exactement.
Vous êtes aussi en recherche d'une
d'alternance. Mais je rebondis plus aujourd'hui vers la recherche d'un emploi.
Mm-hmm.
Donc comme vous l'avez dit, de préférence un CDI, mais je suis pas du tout fermé à un CDD ou un contrat d'intérim. Pourquoi je rebondis vers un emploi? Parce que étant donné que la deadline se rapproche, j'aimerais pas me retrouver en difficulté après ça. Donc j'essaye de rebondir si je trouve un emploi avant cette deadline. Heureusement pour moi, tant mieux pour moi. J'ai déjà eu quelques entretiens où on a discuté de cela et où ils voient de leur côté si j'arrive à passer cet entretien, s'ils peuvent pas me prendre en alternance
vous offrez une option
exactement,
supplémentaire
afin de pouvoir continuer et poursuivre ma formation. Mais j'essaye de me relever, j'essaye de pas être pessimiste, de penser au bon côté des choses.
Y croire, ouais.
Exactement. Même si ça a été donc un dénouement, je dirais tragique, la fin de mon contrat, j'ai pu faire énormément de rencontres, notamment donc Frédéric Coste avec qui j'ai pas mal échangé, avec qui j'ai fait pas mal d'ateliers.
Mmh.
Donc que ça soit avec le programme du PAC Emploi Logement 95 qui a récemment débuté ou la dernière promotion avec les ambassadeurs de la réussite qui s'est déroulée à Argenteuil, j'ai fait pas mal de rencontres avec les formateurs, les jeunes en insertion professionnelle, etc. Donc c'est une expérience quand même très enrichissante.
Ouais.
C'est certes un parcours avec beaucoup d'obstacles, mais j'y crois et je sais que au bout d'un moment j'atteindrai bien la ligne d'arrivée et que je trouverai une route plus stable pour y arriver.
C'est bien, vous êtes dans le positif. Et du coup, si vous voulez, comment vous pourriez valoriser vos compétences auprès des recruteurs qui peut-être nous écoutent?
Je pourrais valoriser mes compétences en parlant de techniques comme donc l'automatisation que j'ai précédemment
cité.
Mais aussi plus humain. Donc je suis quelqu'un de très comment dire, de très rigoureux. Je suis autonome et très je dirais culotté et curieux, c'est-à-dire que je cherche pas forcément à faire l'excellence. Alors j'essaie de m'en rapprocher le mieux, bien mais sûr. L'excellence aujourd'hui n'existe pas, surtout dans le monde informatique. Mais j'essaie de faire de mon mieux, de montrer que je peux apporter beaucoup de choses, que ça soit pour l'équipe, pour l'entreprise, mais aussi pour les clients. Donc j'ai beaucoup, c'est grâce à mes expériences, notamment chez McDonald's par exemple, qui est certes très éloigné de l'IT, mais qui m'a apporté pas mal de compétences. Par exemple, le travail dans un monde de stress, la gestion des clients, le travail sous pression,
la rigueur,
c'est ça, et surtout l'adaptabilité qui est très très important, peu importe le domaine. Et surtout la prévention, essayer de prévoir plusieurs cas, parce que rien ne se passe comme on l'a prévu. Il peut y avoir toujours une coquille, mais on fait en sorte que cette coquille se transforme en carapace pour essayer donc de pas en faire un échec, mais plutôt de faire une meilleure réussite.
C'est une très belle image, transformer la coquille en carapace, j'adore. Merci infiniment, Fed. Un message pour séduire les chefs d'entreprise qui nous écoutent.
Oui, je dirais que si je peux simplifier l'esprit dans lequel j'avance en simple phrase, je citerai donc Sénèque, un philosophe romain, qui dit que ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas, mais que c'est parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles. Et aujourd'hui, on peut dire pratiquement la même chose des systèmes.
C'est vrai.
Un bon système n'est pas celui qui ne tombe jamais, c'est celui qui est conçu pour se relever. Et c'est ce qu'a dit Steve Jobs, et c'est exactement ce que j'aime construire aujourd'hui. Alors si parmi vous, quelqu'un est à la recherche d'un profil passionné par les systèmes, persévérant et capable de s'investir pleinement dans une infrastructure informatique, je serais ravi de pouvoir vous montrer, échanger avec vous pour vous montrer ce que je peux apporter pour votre équipe et votre société.
Écoutez, merci infiniment pour ce message et moi j'ai été ravie de vous accueillir pour vous donner la parole et j'espère que ça suscitera des envies de vous recevoir.
Merci beaucoup merci et merci à vous pour l'invitation.
Je vous en prie, merci Ben.
De rien.
Allez, encore quelques minutes de pause et on écoute la chanson de Julien Clerc qui chante Mélissa.
Sa vie toujours dévêtue. Dites jamais que je vous ai dit ça ou Mélissa me tue. Le matin derrière ses canis alors qu'elle est moitié nue. Sur les murs devant chez Mélissa y a tout plein d'inconnus. Descendez ça c'est défendu. Oh c'est indécent. Elle crie mais bien entendu personne ne descend. Sous la soie de sa jupe fendue, en zoom en gros plan, tout un tas d'individus, film noir et blanc. Mélissa Métis d'Ibissa a des seins tout pointus. Dites jamais que je vous ai dit ça ou Mélissa me tue. Descendez ça c'est défendu, matez chez les gens. Elle criait bien entendu, y'a jamais d'argent. Elle crie c'est du temps perdu, personne ne l'entend. La police est tout dévendue, disant qu'elle attend. Mélissa Métis d'Ibissa a toujours sa vertu. Dites jamais que je vous ai dit ça ou Mélissa me tue. Jamais vu. Le matin derrière ses canis, alors je vends des longues vues. Mais si jamais Mélissa c'est ça, là c'est moi qui vous tue.
Ma métisse est nue. IDFM, 98FM.
Allez, on poursuit l'économie en direct sur IDFM Radio avec ma troisième invitée, Catherine Ezicard, donc fondatrice de Limitless et Speak Fluently English. Catherine, nous avons la chance de nous connaître sur un autre... dans un autre domaine, hein, un réseau qui s'appelle le Cercle des Termes. Et je suis ravie de vous accueillir. J'essaie de les recevoir au fur et à mesure chacun, mais bon, c'est pas évident, hein, ils résistent. Donc Catherine, alors, votre parcours, vous n'avez pas toujours donné des cours comme aujourd'hui, je crois.
Exactement. Mon parcours a commencé il y a 14 ans en tant que prof d'anglais à l'Éducation nationale. Et là, ça commence mon parcours ici en France. Je suis non-native, je suis arrivée en 2005. Et j'enseignais 12 anglais dans un lycée Jacques Federer à Épinay-sur-Seine. Fameuse Covid est arrivée, c'est là que j'ai commencé mon projet.
Ah, et, COVID décidément, est arrivé, ce Covid.
C'est ça, ça touche énormément des gens. Et là, quand on fait visio à cette époque, on travaille beaucoup, on fait des cours en visio. Et là, je voyais les élèves, ils ont vraiment entouré par la négative, ils ont démotivé. Donc, j'ai dit, il faut que je trouve une solution pour motiver mes élèves et aussi mettre en travail très vite. Anglais, c'est une langue vivante. Mais quand je fais des cours en visio, je voyais que les élèves sont super démotivés. C'est à cause du Covid, mais je trouvais une solution. Donc là, j'ai dit, il y a un exercice qui s'appelle 18 minutes par jour. Et je commence à implémenter ça avec mes élèves et je vois une différence dans le retour de devoir. Si on arrive à consacrer 18 minutes par jour, donc là, on voit vraiment une transformation dans le résultat. Mmh. Ça commence à impacter les jeunes. Et j'ai dit, mais pourquoi pas utiliser avec les adultes? Parce que à ce moment-là, je voyais les gens qui sont super intelligents, qui ont beaucoup de potentiel, mais bloqués par une seule chose, c'est la langue.
Parler anglais, ouais.
Exactement. Des étudiants qui n'osent pas parler, des professionnels qui perdent des opportunités, des entrepreneurs qui avaient des idées brillantes, mais qui ne pouvaient pas les exprimer à l'international. Et je me suis vraiment reconnue en eux. J'ai dit, j'ai compris le problème, n'était pas l'intelligence, mais la confiance et la méthode, surtout le manque de pratique réelle. Alors, j'ai décidé d'agir et j'ai commencé mon entreprise il y a 3 ans. Je commençais à faire beaucoup de bénévolat dans les associations pour comprendre un peu l'attente de ma cible. Mmh. C'est-à-dire, avant, j'avais vraiment travaillé au lycée, mais maintenant, dans l'association, j'arrive à encadrer les professionnels, les ados qui préparent les examens TOEIC. Ça me permet à voir quelles sont les difficultés. C'est là que commençait mon projet, il y a 3 ans avant. Et je commençais le Limitless. Pourquoi Limitless? Parce qu'on n'a pas de limite.
Mmh, voilà. Absolument.
Exactement.
Vous avez donc abandonné l'éducation nationale?
Je suis toujours à l'éducation nationale. Ah. Je travaille en mi-temps.
D'accord.
Voilà. J'arrive pas à détacher complètement avec mes élèves. Mmh, donc, je travaille en mi-temps.
Très bien. Alors, je m'adresse à Virginie et à Fed. Vous parlez anglais couramment, Virginie, puisque vous faites des repas à l'étranger?
Alors, moi qui veux me développer à l'international, je crois qu'il faut que je commence à réfléchir à cocher cette case.
D'accord. Vous apprenez au moins le nom de vos plats.
Oui, mais alors, le langage culinaire, c'est très compliqué.
C'est tout
moi, j'étais prof d'allemand. Moi, j'ai une maîtrise en germanistique. Et même dans les langues, il faut être sur place, en fait, pour connaître tout ça. Donc, je pense qu'on a des choses à faire ensemble.
Parce que tous les langages comment professionnels sont extrêmement compliqués. Et vous, Fed?
Moi, j'ai un anglais très métier, très axé métier, c'est-à-dire que dans mon domaine, les mots techniques, etc., je les maîtrise assez bien. Mm-hmm. Dans la vie courante, j'ai un anglais, je dirais, basique, conversationnel,
scolaire.
C'est ça.
Mm-hmm.
J'arrive à avoir des conversations. Je comprends très très bien. Je hic juste sur quand c'est à mon tour de parler. Des fois avec le stress et le fait que j'ai pas l'habitude, je prends du temps à chercher mes mots. Mais en termes de compréhension, je comprends très bien.
Vous comprenez,
c'est
oui.
ça. Mais effectivement, j'ai notamment pris la carte pour pouvoir potentiellement faire appel à vos services.
Ah, Catherine. Merci, Fed. Alors, Catherine, donc aujourd'hui, vous n'intervenez plus que dans des associations, vous allez dans des TPE, des PME. Comment vous intervenez principalement?
Alors aujourd'hui, je travaille beaucoup avec les associations, la mission locale d'Épinay à Genteuil, et aussi dans les entreprises comme cybersécurité. J'en ai déjà fait des team building avec eux. Donc on fait des ateliers de team building parce que cybersécurité, anglais, c'est super important. Aujourd'hui, avec toutes les applications et l'intelligence artificielle, on peut apprendre seul, mais on ne progresse pas vraiment que l'on pratique avec des vrais humains, avec un accompagnement et une expertise. Et c'est exactement ce que nous apportons, qu'on travaille en sur-mesure avec les clients.
Mais alors, du coup, vous utilisez l'outil numérique ou pas du tout?
J'utilisais une plateforme e-learning dans mon site internet, mais j'ai pas d'application, j'ai pas un chatbot qui parle avec mes clients, c'est moi qui essaie d'interagir avec mes clients.
Alors, il faut que vous adaptiez aussi, vous adaptiez votre enseignement à des niveaux très variés. Vous nous l'avez dit, vous préparez au TOEIC. Expliquez-nous ce que c'est exactement.
Exactement. TOEIC, c'est un niveau natif. Donc, maintenant, les écoles de commerce, ils incitent les élèves à passer l'examen TOEIC à fin de l'année. Et d'après l'éducation nationale, on appelle ça CECRL. Donc, un niveau A1, A2, c'est collégien, B1, B2, lycéen, C1, C2, c'est natif. Si vous voulez vraiment apprendre l'anglais et passer l'examen TOEIC, on fait un petit test de niveau en anglais pour vraiment évaluer et vous positionner quel est votre niveau. Et là, une fois qu'on sait votre niveau, et là, vous commencez à préparer le TOEIC chez nous. Donc, minimum, vous aurez 6 mois de préparation dans notre centre de formation pour préparer l'examen TOEIC. Tout dépend le test de niveau.
D'accord, voilà. D'accord. Donc, vous avez carrément un centre de formation qui est à Épinay, c'est ça?
Exactement.
Et vous êtes combien dans ce centre de formation?
On est 4 collègues en anglais.
D'accord.
Vraiment native anglophone.
Très bien. Et est-ce que vous arrivez à intégrer l'actualité internationale dans l'enseignement de l'anglais?
Alors, là, c'est en cours. Donc, on essaie de vraiment atteindre notre objectif. Et là, les réseaux comme SAC d'Eterne et les autres réseaux, j'essaie de réseauter pour vraiment gagner plus de visibilité et atteindre mon objectif international.
Aujourd'hui, vos besoins professionnels, quels sont-ils?
Alors, la centre de formation, j'ai commencé il y a 3 ans. Donc, l'objectif professionnel actuellement, c'est avoir gagné plus de visibilité et aussi pitcher dans les entreprises comme cybersécurité et les entreprises qui travaillent à l'international, aux États-Unis ou en Angleterre. C'est là, j'aimerais bien avoir vraiment gagné la visibilité pour travailler avec les entrepreneurs et les employés qui préparent parler couramment en anglais.
Et alors, depuis que vous avez décidé d'avoir cette activité en plus de votre enseignement dans le milieu scolaire, vous avez peut-être rencontré des difficultés. Quelles sont-elles?
Exactement. Parce que là, quand on travaille en tant que salarié, vous avez un emploi du temps fixe. Mais un entrepreneur, c'est pas pareil. Donc, il faut s'adapter avec les clients. Des fois, les clients, comme c'est entrepreneur, ils adorent bosser le soir.
Ah oui.
Donc là, si vous passez beaucoup de temps le soir, et là, on a moins de temps avec la famille. Donc ça, c'est classique qu'on confronte tous les entrepreneurs. C'était un vrai challenge quand je débutais en tant qu'entrepreneur et salarié. Et à un moment donné, au bout d'un an, je commençais à prendre le rythme. Et là, maintenant, j'arrive à vraiment recruter plusieurs profs. Donc, on évite ce problématique-là.
Oui,
on essaie de travailler avec...
À créer un flux entre
Exactement,
chacun.
Exactement, tout à fait.
Et vous avez une actualité là pour partager avec nos auditrices auditeurs?
Oui, tout à fait. Donc là, on commence les stages de révision pendant les vacances d'avril. Donc ça commence le 20 avril jusqu'à 25 avril. On fait une stage intensive pour les collégiens, lycéens et les étudiantes qui préparent à l'examen TOEIC ou même pour préparer leur brevet et baccalauréat en anglais.
Alors, que faut-il faire pour participer à ces stages?
Alors, donc, je vous enverrai, il y a un lien d'inscription sur mon site internet, Speak Fluent English. Vous cliquez dessus et vous inscrivez pour la formation.
D'accord, voilà. Très bien. Bon, voilà. Eh bien, écoutez, c'est des informations qui se retrouveront dans notre podcast. Et ça me fait rebondir pour Virginie aussi. Virginie, si on veut vous joindre, que faut-il faire?
Alors, j'ai un site communique-passion.fr et après sur les réseaux Instagram et LinkedIn.
Sachant que communique, ça c'est
C-O-2-M-U-N-I-C.
C'est ça, passion.
Passion.
Merci Virginie. Merci. Et vous Fed, j'ai oublié de vous demander comment on peut vous joindre.
Oui, on peut me joindre pareillement sur LinkedIn, donc avec mon prénom et nom de famille, donc Fed, F-E-H-D, à pas oublier le H.
Oui.
El Aboubi, donc E-L espace A-B-O-U-B-I. On peut aussi retrouver mes contacts et mon portfolio en ligne, donc portfoliofed.alwaysdata, tout attaché. www.idfmradio.fr.
Très bien.
Et je suis aussi disponible sur les réseaux. Je ouvre actuellement mes réseaux sociaux professionnels, que ça soit sur Instagram, TikTok, etc., pour publier donc de l'actualité, des vidéos et tout concernant l'informatique.
Très bien. Bon ben voilà, on a tout pour vous joindre. Si on vous joint pas, c'est qu'on n'a rien compris.
C'est ça.
Merci Fred.
Merci.
Catherine, est-ce que vous avez des retours des personnes auxquelles vous faites des cours comme ça, que vous disent-ils?
Alors déjà dans mon site internet Speak Fluent English, vous aurez au moins minimum 12 témoignages de nos clients qui ont profité de notre accompagnement personnalisé. Et moi, je voulais vraiment citer de Sacha Demoy, c'est mon premier client qui a passé son examen TOEIC avec un score de 950. Donc c'est mon premier client. Grâce à lui, j'ai gagné beaucoup de visibilité et c'est lui qui m'a apporté beaucoup plus de clients.
C'est ça.
Et actuellement, je travaille avec le maire adjoint d'Épinay-sur-Seine. Il a commencé, c'est Guillaume Lefoc. Il a commencé le cours d'anglais avec moi. Après, c'est sa femme qui a intégré aussi notre équipe. Donc, du coup, c'est les témoignages qui me fait...
Des belles références.
Exactement, tout à fait.
Et donc, votre objectif à terme, c'est peut-être de quitter définitivement l'éducation nationale ou pas forcément?
Exactement, c'est ça, ouais, c'est ça, justement. Et devenir 100% entrepreneur, liberté aussi.
Et donc, vous l'envisagez dans combien de temps? Vous avez une vision, une visibilité?
Oui, peut-être dans 2 ans.
Oui.
Voilà. Donc là, 100% entrepreneur, comme ça, je peux quitter l'éducation nationale et aider aussi les adultes et les entrepreneurs parler couramment anglais en 6 mois.
Très bien. Bah, écoutez, merci beaucoup. Est-ce qu'il y a une question que je ne vous ai pas posée, à laquelle vous auriez souhaité répondre?
C'est juste pour terminer avec un petit slogan.
Oui.
Donc, je voulais dire en anglais, après je fais la traduction en anglais.
Oui.
Speak English and write your own story. C'est-à-dire, parlez anglais et écrivez votre propre histoire.
Très bien. Voilà. Merci. Bah, écoutez, merci. On a plein de citations aujourd'hui. Super. Merci infiniment, Catherine. Je pense qu'on a le temps de faire encore une pause, hein, Nicolas. Donc là, je vous propose d'écouter le duo Joyce, Jonathan et Vianney et leur reprise de Les filles d'aujourd'hui.
Elles sont énervantes, les filles d'aujourd'hui. Et malheureusement, j'en fais partie. Elles sont trop hésitantes, les filles d'aujourd'hui. Elles savent pas ce qu'elles veulent, elles savent pas dire oui.
Les gens de mon temps s'enlacent. Et de ce temps, les gens se lassent. Soudainement, tout s'efface. Au moment de la préface, on se rend débile d'amour. On se défie pourtant. Avant d'écrire le jour suivant, lui volant de ville en ville, vivons-nous vraiment? Lui volant de ville en ville, vivons-nous? Elles sont déroutantes, les filles d'aujourd'hui. Un petit tour d'amour et puis s'enfuit. Si elles suivent le vent, les filles d'aujourd'hui, sais-tu que les garçons le font aussi?
Oui.
Les gens de mon temps s'embrassent avant qu'ils ne se remplacent. Tout se détend, se détache au moment de la préface. On se rend débile d'amour un temps. On se défile pourtant. Avant d'écrire le jour suivant, et volant de ville en ville, vivons-nous vraiment?
IDFM Radio, 98 FM.
Voilà, on arrive à la fin de cette émission dans laquelle j'ai eu le plaisir d'accueillir donc Virginie Legrand, chef à domicile, fondatrice de Communique Passion, Fed El Aboubi, administrateur système et réseau, et Catherine Ezika, Limitless et Speak Fluently English. Merci en tout cas à tous les trois d'avoir été mes invités, mais on va pas se quitter avant sans avoir un petit mot de conclusion. Donc on va faire dans l'autre tour. Donc Fed, je vous donne la parole en premier.
Bah, je tiens déjà à vous remercier pour l'invitation, Jacqueline, à aussi remercier Frédéric Coste et toute son équipe pour cette aventure, pour ce partage et pour la mise en contact avec vous afin de pouvoir participer à cette émission. Je tiens aussi à remercier toute l'équipe technique et tous les invités pour leur joie de vivre et leur témoignage. Je tiens aussi beaucoup de remerciements.
Oui,
je tiens aussi faire une petite dédicace avec tous les jeunes avec qui j'ai vécu cette aventure, que ça soit la dernière promo des ambassadeurs de la réussite ou la première promo du Pack Emploi Logement 95, de leur dire de pas lâcher et que j'ai aucun doute sur leur réussite sur les résultats de leur recherche, que ça soit de l'alternance ou un premier emploi. Et je tiens aussi à remercier à tous nos auditeurs et auditrices pour leur écoute et j'espère que vous passez une agréable journée et que votre semaine se terminera à merveille.
Merci Fed. Vous parliez de deadline tout à l'heure, quelle est-elle ?
Oui, concernant la deadline pour trouver mon entreprise, c'est pour fin mai, début juin.
Ouais.
Donc aux alentours du 4 juin si je ne me trompe pas. Donc si des personnes ont des pistes pour une
bien
alternance
sûr.
À débuter avant le 4 juin, ça c'est important parce que j'ai eu pas mal d'entreprises qui m'ont demandé si je pouvais débuter en septembre.
Oui.
Malheureusement, le contrat commence trop
tard.
Il
faudrait
donc
vraiment démarrer avant.
C'est ça exactement. Mmh. Donc c'est le début de contrat doit être le début de contrat doit débuter avant le 4 juin au plus tard. Donc ça c'est la deadline pour contrat d'apprentissage effectivement.
Pas, oui. Et vous recherchez de plutôt TPE, PME, grosses entreprises ?
J'ai pas de préférence.
Non.
Donc ma dernière expérience a été avec une petite entreprise, une start-up de 5-6 ans.
Mm-hmm.
Franchement, bien sûr mon rêve ça serait de travailler dans une grande entreprise, notamment une entreprise du groupe Gamam. Mais bien sûr, je ne suis pas du tout fermé aux petites et moyennes entreprises.
N'importe quelle opportunité.
Exactement.
Très bien.
Exactement. Bah,
écoutez, c'est tout le mal qu'on vous souhaite, Fred. Merci à vous.
Merci beaucoup.
Catherine, à votre conclusion.
Oui, je tiens à remercier Jacqueline énormément. C'est une très belle expérience pour moi. C'est la première fois dans un radio et du coup, ça m'apporte plein de choses. Et merci les invités.
Ben non.
Et l'équipe également pour nous accueillir ici. Et, d'abord, avant de remercier tout, Fred, je vous donne un entretien dans mon bureau et on essaie de mettre en contact avec une entreprise qui cherche une alternance en cybersécurité.
Ah bah très bien.
Voilà. Donc,
merci infiniment.
Merci. Ben, moi aussi, j'ai envoyé votre fiche contact à quelqu'un que je connais et j'espère peut-être que ça marchera.
J'espère aussi, merci beaucoup.
Merci Catherine.
Et une de mes actualités, donc je parlais tout à l'heure de ma stage de révision intensif qui aura lieu pendant les vacances scolaires d'avril, c'est le 27 avril jusqu'à 30 avril, donc le coût de la formation c'est 350 € pour l'inscription, vous avez toutes les infos dans le site internet Speak Fluent English, il y a tous mes coordonnées, numéro de téléphone, mail, comme ça vous pouvez m'envoyer un petit mail. Voilà.
Et donc, c'est combien d'heures par jour,
c'est
ce stage?
C'est 5 heures par jour. Tout à
très
fait.
Très bien. Oui, donc c'est dense quand même.
C'est dense, exactement.
Très bien.
Un stage intensif, quoi.
Et à la fin du stage, on parle fluently.
À la fin, voilà. Je donne pas des fake news, mais on essaye.
Merci beaucoup, Catherine.
Merci à toi.
Virginie Legrand. Alors, on a oublié de dire une chose importante. J'ai oublié de dire une chose importante. C'est que vous avez été élue femme chez Forbes cette année. Donc, racontez-nous cette aventure.
En fait, j'ai simplement candidaté. En fait, c'est un dossier de candidature que j'ai remis au mois d'avril. Mm-hmm. Mais vraiment, j'avais 10 minutes à tuer. Je me suis dit, j'y vais. Alors, c'était quand même assez exigeant. Il y avait des recommandations, des références, beaucoup sur les réseaux sociaux, savoir comment on était sur les réseaux, et puis notre rapport à l'entrepreneuriat, à l'audace, au leadership. Et j'ai appris en juillet que je faisais partie de la promo avec 39 autres femmes extraordinaires. Donc du coup, je leur dédie...
Que vous avez rencontrées ?
Oui, en fait, on a un fil WhatsApp et on fait beaucoup d'événements ensemble. C'est des femmes qui me stimulent énormément, on se stimule beaucoup. Et aujourd'hui, je tiens à remercier, bon, déjà, bien sûr, la star du jour, Catherine. Merci à vous. Merci Fed, merci Catherine pour cette belle énergie aussi dans ce studio. Moi, je trouve que moi, j'entreprends depuis 12 ans, donc on peut dire que je suis une vieille dans le milieu, mais j'ai toujours besoin.
Qu'est-ce que je dois dire?
On va dire mature.
Voilà.
C'est quelque chose que je connais bien, mais en fait, j'ai toujours besoin d'apprendre des autres, d'avoir une énergie collective, et je crois que l'ambition, c'est important d'avoir de l'ambition, et j'ai envie aujourd'hui de dire que l'ambition n'est pas un gros mot.
Ah non, non.
Voilà. On fait du business décomplexé, on va se rencontrer, on va échanger. Et je trouve que c'est important. Et vu qu'on est à fond dans la citation et que Fed a pris ma citation de Sénèque, je vais faire une citation de De Gaulle. Entre possible et impossible, deux lettres et un état d'esprit. Donc ici, je crois qu'on a un bel état d'esprit pour aller loin et voir grand.
Très bien, écoutez, merci. Et puis, à tous les trois, moi, je vous souhaite beaucoup de succès dans la poursuite de vos parcours très, très inspirants. Merci. Je sais que c'est un mot à la mode, mais voilà. Et là, je trouve qu'il est parfait pour vos parcours. Merci vraiment à tous les trois pour vos interventions riches et complémentaires. Et puis, parce que finalement, cette émission nous montre à quel point l'économie repose aujourd'hui sur des parcours variés entre savoir-faire artisanal, expertise technologique et innovation pédagogique. Merci infiniment. Voilà, l'économie en direct est terminée. Merci Nicolas, merci Enzo pour la technique. Merci à nos fidèles auditrices et auditeurs, bien sûr, qui sont toujours de plus en plus nombreux de nous accompagner sur IDFM Radio. Vous avez apprécié cette émission, alors n'hésitez pas à en parler autour de vous et retrouvez son podcast sur le site de la radio idfm98.fr. On se retrouve mardi pour un nouveau numéro d'économie en direct. Belle journée et bon week-end. Et bien sûr, restez branchés sur notre fréquence parce que beaucoup d'autres émissions vous attendent. À bientôt.
Écoutez IDFM Radio sur le 98FM.
IDFM Radio, 98FM.
Bonjour, c'est Christelle. Je vous invite à découvrir Les Secrets de la Servante, votre nouvelle émission culture sur IDFM Radio. Quand la salle de spectacle se vide et que le théâtre s'endort, saviez-vous qu'il reste une petite lumière qui brille ? C'est celle de la servante. Elle veille, surveille, jusqu'au prochain réveil. Dans cette émission, nous donnons la parole à celles et ceux qui, dans l'ombre comme dans la lumière, font vivre la culture.
artistes, auteurs, techniciens, experts ou acteurs du secteur. Chaque semaine, La Servante nous livre ses secrets, éclaire l'actualité et anime les coulisses du spectacle vivant. Alors rendez-vous tous les samedis à 16h sur IDFM Radio.
Depuis 1994, vous pouvez entendre sur IDFM Radio l'émission Country and Souvenirs avec Patrick Mullis. Alors n'hésitez pas. Restez branchés le dimanche soir de 19h à 21h pour 2 heures de country music et chaque semaine, vous pouvez gagner un album en envoyant un message à countryidfm@gmail.com. Bonne semaine à tous et bonne écoute surtout. À bientôt.
Bonjour, retrouvez-nous sur IDFM Radio tous les vendredis de 18h à 19h avec toute la culture que j'aime.
Toute la culture que j'aime, c'est votre rendez-vous avec Marie-Laure et Agnès en alternance le vendredi de 18h à 19h. Nous partagerons nos coups de cœur.
Théâtre, littérature, musique, sorties.
Toute la culture que j'aime, c'est le vendredi de 18h à 19h sur IDFM Radio.